Oui. Il faut toujours vérifier avec moi. C'est ça qu'il disait, hein? C'est la qualité des chrétiens de Béret. Ils vérifiaient, tu sais. C'est important. Est-ce qu'il y a quelques personnes qui voudraient nous donner du feedback? Donnez-moi du feedback à savoir si, en passant dans le Nouveau Testament, ça devient trop théorique. La semaine dernière, j'ai eu l'impression que j'essayais de faire rentrer comme une grosse forme qui ne rentrait peut-être pas tout à fait. Est-ce que ça va bien jusqu'à présent? Arrivez-vous à me suivre ou est-ce que... C'est sûr qu'il faut avoir la théorie, mais des fois, dans le regard de mon épouse, je vois quelque chose qui change. Là, je comprends que je suis rendu tout seul, je m'amuse seul. Et c'est un petit peu ça ma question. Est-ce que je m'amuse seul ou ça va, vous êtes toujours avec moi? Beaucoup de questions la semaine dernière, c'est vrai, ça permettait de faire les liens, d'accord. Donc ça va? Oui? OK. C'est vrai que la leçon sur Jésus et le nouveau temple, de même que la leçon cette semaine, Jésus et l'Alliance, c'est plus théorique, d'accord? On est en train d'adresser qu'est-ce qui change sur le plan spirituel, quelles sont les réalités qui changent lorsqu'on pense de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et donc, il y a une dimension théorique à ça. Lorsqu'on va entrer dans les Épîtres, on va aller voir un petit peu plus comment est-ce que Paul vivait son adoration lorsqu'on va parler, par exemple, du service de l'Évangile comme un acte d'adoration. Là, ça va devenir beaucoup plus pratique, beaucoup plus concret. D'accord? Mais je sais qu'on avait commencé déjà la première leçon dans l'Ancien Testament. Il y avait des aspects assez pratiques, puis je craignais un peu là, de vous perdre avec les leçons actuelles. Alors, nous sommes dans le cours En esprit et en vérité, la quatrième leçon, Jésus et la nouvelle alliance. Je vous demande de prendre un nouveau paquet de feuilles pour cette leçon-là. Et celle que vous avez reçue par courriel, ce n'était pas la bonne hier soir. Mais sur le site Internet, ce ne sera peut-être pas la bonne non plus. Donc, on va essayer de vérifier avec Samuel Flao que je lui envoie la bonne pour que vous trouviez la bonne leçon sur le site Internet. OK. On va aller ensemble dans un mot de prière, d'accord? Eh bien, Père éternel, nous sommes ici pour t'adorer, ô Dieu, pour plonger les regards dans ta parole, dans ta bonne parole de vie. Seigneur Jésus, ta venue a tout changé. Ta venue nous a ouvert un accès auprès de Dieu, comme cela n'avait jamais été le cas depuis Adam, depuis ce temps où tu te promenais avec Adam et Ève dans le jardin, Seigneur. Et à cause de toi, Jésus-Christ, nous retrouvons cette intimité avec Dieu le Père. Seigneur, je te prie d'éclairer nos intelligences ce matin, afin que nous puissions comprendre ta parole, et que nous puissions grandir comme adorateurs. Nous voulons, Seigneur, t'adorer, comme le dit l'apôtre Paul, non seulement en esprit, mais avec intelligence. Viens nous aider à comprendre ces choses, Seigneur. Elles sont merveilleuses. Sois avec moi afin que je puisse communiquer clairement ta parole, et Seigneur, que moi-même, je sois toujours émerveillé par ta beauté, par la grandeur de ton œuvre à la croix. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen. Lorsqu'on est en train de survoler les évangiles pour la leçon 3 et la leçon 4, on survole les évangiles. Après ça, on va se tourner vers le livre des Actes. Prenez une nouvelle leçon, s'il vous plaît, la leçon 4 qui est sur la feuille. Lorsqu'on va se tourner vers les Actes puis vers les lettres, les choses vont devenir plus claires. Mais lorsqu'on écoute Jésus enseigner sur ce qu'il est venu apporter comme transformation, Jésus parle encore avec un langage un peu encrypté. D'accord? Il y a des choses qui sont accomplies, qu'il annonce, mais qu'il ne veut pas révéler entièrement. Par exemple, les déclarations les plus claires et les plus nettes de la bouche de Jésus à l'effet qu'il est le Messie, on les trouve, je veux dire, devant ses juges. Mais Jésus ne se promène pas avec une pancarte autour du cou disant « Je suis le Messie, je suis le Temple. Le Temple ne sera plus nécessaire, c'est moi qui remplace le Temple. » Voyez-vous, alors on est encore dans un langage qui est un peu encrypté avec Jésus parce qu'il y a encore un mystère. Et les lettres qui suivent, les apôtres qui suivent, Jésus l'avait annoncé que ce serait comme ça, reçoivent l'Esprit-Saint et viennent enseigner clairement beaucoup de choses. Beaucoup de choses, d'accord? Encrypté, c'est codé, c'est secret, c'est un peu mystérieux. Tu écoutes Jésus puis tu dis, est-ce qu'il va jusque-là? Il a de l'air d'aller pas mal loin dans ce qu'il dit, dans ce qu'il insinue. Il y a ici plus que le temple. Oh, OK. Pouvez-vous expliquer? Tu sais, tu aurais voulu qu'il ajoute quelques phrases, mais ça reste un peu mystérieux. Pardon? Pourquoi c'est mystérieux? Bien, c'est ça, l'heure n'était pas venue. Et si Jésus est arrivé au début de son ministère, il avait dit, « Talam, je suis le Messie, vous devez me crucifier. » Je ne suis pas ironique quand je dis ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il avait son ministère à accomplir et il devait accomplir des miracles, il devait accomplir des signes, il devait accomplir des prophéties et il y avait un temps de ministère public qui devait s'accomplir. Ah non, ça, c'est resté assez mystérieux, pas mal tout le long. Une partie de la réponse, donc, c'est que le temps n'était pas venu. Une autre partie de la réponse, beaucoup plus choquante pour ceux qui n'ont pas saisi Christ, c'est que ceux qui ne veulent pas voir doivent être encore plus aveuglés. Ceux qui ne veulent pas entendre doivent avoir les oreilles fermées. Et donc, Jésus parlait en parabole aussi, parce que ceux qui résistent à Dieu seront repoussés par Dieu et seront laissés dans leurs ténèbres encore davantage. Donc, il y a deux dimensions. Il y a deux aspects, il y a deux raisons, si je peux dire. Alors, mais je voulais juste mentionner cela, ça reste encore un peu mystérieux, le langage. Vous allez voir, on va parler de l'Alliance, il y a des choses qui sont claires, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires, il y a des choses qui sont insinuées par Jésus, puis c'est plus tard que les apôtres vont clarifier ces choses-là. Je vous rappelle simplement les thèmes majeurs qu'on a vus, ce que je veux que vous reteniez à la fin du cours. Les thèmes qu'on a vus dans l'Ancien Testament qui vont nous suivre dans le Nouveau Testament, la révélation, la rédemption, l'alliance entre Dieu et Israël ou entre Dieu et son peuple, et puis la nouvelle vocation de ce peuple-là qui a été racheté, d'accord? Puis on va voir dans les prochaines semaines comment ça se transpose dans le Nouveau Testament. Ensuite de ça, on a parlé du langage de l'adoration, rendre hommage, spécialement exprimé par le fait de se prosterner, d'accord? Le service, l'adoration en Israël était intimement lié au service de Dieu, puis la révérence et le respect. D'accord? Alors, c'est important de se rappeler de ces choses-là, parce que là, on va les voir tranquillement se développer. Ce matin, on va parler, entre autres, du service de Jésus-Christ, qui est un modèle pour nous. La semaine dernière, on a vu ensemble, je vais juste vous lire un paragraphe de la page 2 des notes de ce matin. Avec la leçon 3, nous avons vu ensemble, que la venue de Jésus-Christ vient bouleverser en profondeur l'adoration du peuple de Dieu. En effet, si dans l'ancienne alliance, un bâtiment tel que le temple ou un rite tel que les sacrifices et l'autel semblent être au centre de l'adoration, il en va tout autrement dans la nouvelle alliance. Nous ne trouvons plus d'édifice, plus ou pratiquement de rite, mais une personne au centre de la vie et de l'adoration du peuple de Dieu, soit Jésus-Christ. Nous verrons ensemble cette semaine que Jésus voyait sa venue comme l'établissement d'une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. On ne va pas entrer dans les termes de l'alliance à ce point-ci ce matin. Vous vous rappelez lorsque j'ai mentionné que Dieu, dans l'Ancien Testament, avait traité une alliance avec son peuple, ça veut dire qu'il y a des termes, il y a des conditions à cette alliance. Nous faisons alliance et les deux parties qui traitent une alliance ensemble ont des termes et conditions à remplir. Ce en quoi l'Éternel s'est engagé envers Israël et ce en quoi Israël s'engageait aussi envers l'Éternel. On ne va pas entrer dans ça ce matin. C'est les apôtres essentiellement qui vont beaucoup développer ça. Mais si vous voulez que je vous donne juste une piste, ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on est dans l'Évangile de Matthieu. Chaque fois que Jésus parle du royaume des cieux, qu'il laisse entendre, voici comment vont se comporter les fils et les filles du royaume. Jésus est en train d'énoncer les termes et conditions de toute personne qui veut entrer dans une alliance avec lui. Alors, quand je suis en train de prêcher, puis je dis, lorsque Jésus dit « bénissez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maudissent », Jésus est en train d'énoncer les termes et conditions pour entrer dans l'alliance avec lui. Est-ce que ça vous éclaire un peu? Vous voyez les pistes? Quand vous voulez chercher quels sont les termes et conditions de la nouvelle alliance, bien, vous allez par exemple dans Matthieu, là où c'est présenté la manière la plus radicale, et vous regardez les exigences que Jésus présente. Voici ce que vous devez faire si vous voulez être fils de votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est les termes et conditions de la nouvelle alliance. Alors évidemment, à un certain moment donné, on s'exclame tout le monde, puis on dit, mais c'est impossible. Alors, on se repent de nos péchés, on va à la croix, c'est ça la grâce. Mais ça demeure que c'était ça. Dans l'Ancien Testament, le peuple de l'Ancien Testament n'était pas capable d'honorer non plus les termes et conditions de l'Alliance. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y avait un processus pour demander pardon. Ça va? Mais on ne va pas aller dans ces aspects-là, on va les développer davantage dans les prochains chapitres, au fur et à mesure qu'on va voir comment l'Église a appris à vivre. Et on va voir ensemble que son style de vie est un acte d'adoration. Tout ce que je veux voir avec vous ce matin, c'est que Jésus enseigne cela. Jésus arrive en disant, il y a une nouvelle alliance qui va être traitée entre Dieu et les hommes. Et Dieu invite tous les hommes à entrer dans cette alliance-là. Au bas de la page 2, la théologie biblique associe étroitement le salut, le temple, l'alliance et l'adoration. Lorsque les évangiles indiquent que le temple est remplacé par la personne et l'œuvre de Jésus et que le salut s'accomplit en sa mort et en sa résurrection, ils supposent l'inauguration d'une nouvelle alliance. Jésus n'en parle ouvertement que lors de l'institution de la scène. Tout à l'heure, Diane a posé une question. Elle a demandé pourquoi est-ce que Jésus parlait de manière encryptée, de manière mystérieuse. C'est déjà quand même quelque chose de dire que Jésus va parler clairement de la nouvelle alliance uniquement lors du dernier repas avec ses proches. D'accord? De tout son ministère public, Jésus n'est pas arrivé en disant « Voici Israël, vous avez manqué à l'alliance. Dieu veut contracter une nouvelle alliance avec vous. C'est l'alliance qui avait été annoncée dans Jérémie et je suis là pour faire ça. » D'accord? Jésus invite mais des conditions pour répondre à son invitation. Ceux qui répondront aux conditions en sauront plus. Ceux qui ne répondront pas aux premières conditions n'en sauront pas plus. D'accord? Et donc, il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose de l'élection des élus, de ceux qui sont appelés, de ceux qui viennent. Je vous ai mis le passage à la page 3 de Jérémie 31. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. » D'accord? Il y a une nouvelle alliance. Cela ne marche pas, c'est brisé, c'est cassé. Depuis Jérémie, Dieu a déjà annoncé cette alliance-là, on va la remplacer par une nouvelle. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Et évidemment, il annonce, nous on peut le comprendre, la venue de l'Esprit dans nos cœurs, qui nous enseigne à nous-mêmes, et on est censé nous-mêmes comprendre des choses comme les Juifs, les Israélites n'avaient jamais pu comprendre. Jésus vient accomplir ça. Et on va voir ensemble des indices à travers les évangiles, comment Jésus voit qu'il s'en vient accomplir cela. Mais c'était déjà annoncé que l'alliance, une alliance nouvelle viendrait. Ça veut dire que les Juifs, qui n'ont pas reconnu en Jésus le Messie, attendent encore la nouvelle alliance. D'accord? Ils attendent encore une nouvelle alliance. Il y a un jour où il va y avoir une nouvelle alliance. Ils sont encore en train d'attendre ça. Dans le livre, il y a tout un volet qui aurait été beaucoup trop long à développer avec vous, mais je vais simplement vous le mentionner quand même. Dans les évangiles, Jésus et pas seulement présenté comme celui qui vient établir une nouvelle alliance, puis puis nous donner un nouveau salut, il est aussi présenté comme le parfait adorateur. D'accord? Et là, peut-être que vous pouvez vous rappeler dans l'évangile de Jean, dans les évangiles, tout le discours, tout le langage de Jésus lorsqu'il dit qu'il veut faire la volonté de son Père, qui est là pour plaire à son Père, qui est là pour honorer son Père. Alors, Jésus ne vient pas simplement comme quelqu'un qui est au-dessus de la loi, mais Jésus vient comme le premier, le modèle, celui qui va être le premier ressuscité, mais qui était aussi le modèle d'adoration. Pensez par exemple au test dans le désert. Lorsque l'Esprit conduit Jésus dans le désert, c'est pour voir si Jésus va être trouvé fidèle là où Israël n'avait pas été trouvé fidèle. Est-ce que Jésus va être un fils fidèle devant les tentations alors qu'Israël a été un fils infidèle devant les tentations? Est-ce que Jésus va être le vrai adorateur là où Israël n'a pas été le vrai adorateur? D'accord? Alors ça, c'est un des thèmes. Je ne pourrais pas prendre le temps de tout le développer. Il aurait fallu qu'on fasse un cours d'à peu près 20 semaines pour ça. D'accord? Mais c'est un des thèmes intéressants. Vous pourriez l'explorer en lisant le livre. Mais je vais juste vous le mentionner pour que vous le gardiez à l'esprit. Et je vais juste vous lire ici dans Deutéronome 6, 13 et 18. Puis pensez au Seigneur Jésus. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Et là, peut-être que vous pouvez penser à quelques passages dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, dans l'attitude de Jésus par rapport à son Père. Mais après ça, lorsqu'on s'en va dans les Épîtres, dans la Lettre aux Hébreux, où on va parler de Jésus, non seulement comme celui qui règne, celui qui est au-dessus, mais aussi celui qui a été fidèle, le Fils fidèle, que Dieu honore à cause de sa fidélité. D'accord? Alors, Jésus est notre modèle d'adorateur aussi. Non seulement il nous rend possible de devenir des adorateurs parce qu'il nous rachète, mais il est notre modèle d'adorateur. Il est Dieu le Fils, mais il est le Fils. Il n'est pas Dieu le Père. Et ça ressort constamment dans sa relation avec son Père. Et dans ce sens-là, il est notre modèle d'adoration. C'est pour ça que lorsque je suis en train d'enseigner, par exemple, dans l'Évangile de Matthieu, Puis je lis les exigences de Jésus par rapport à ce qu'il attend de nous. Puis je sais que ça a l'air tellement gros. Puis là, je me dis, bon, c'est certain, je vais commencer à parler. Puis il y a des cœurs qui vont se fermer. Pouf, 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 pouf. Puis là, ils vont dire, il est utopique, Yannick, un matin. Il est en train de nous dire que c'est vrai, là, il faut faire ça comme ça. Mais il est notre modèle. Et il nous dit qu'on est appelé à faire comme lui et plus que lui encore. C'est ça qu'il a dit lui-même de sa bouche, d'accord? Alors, il est notre modèle dans sa dépendance au Père, dans son don de soi, dans son abnégation. Pardon? Comment est-ce qu'on peut faire plus que lui? Ben, on... Pardon? Oui, mais les apôtres ont fait plus que lui, en le sens que les apôtres ont enseigné des choses clairement, comme lui ne les avait pas enseignées clairement. Son ministère a été très limité. Je veux dire, Christ n'a pas conduit beaucoup de monde au Seigneur. D'accord, sa moyenne au bâton n'était pas terrible. Mais là, l'Esprit n'est pas envoyé. Lui, il s'en va, il envoie l'Esprit. L'Esprit est envoyé, on conduit des âmes à Christ. Donc oui, le ministère est appelé à exploser après le départ de Christ. Nous, on est là, puis on regarde tous les miracles que Jésus faisait, puis on se dit, si Jésus était à côté de moi, puis il venait servir, ça serait tellement plus hot. C'est pas ça que Jésus pensait, en tout cas. C'est pas comme ça que Jésus le voyait. Pardon? Oui, je pense qu'il y en a beaucoup. La question de Diane, c'est dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont sauvés? Je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient sauvés dans l'Ancien Testament parce qu'on croyait. C'était par la foi aussi, de la même manière. Alors, dans un sens, tous les évangiles illustrent comment Jésus vivait ça, Deutéronome 6, 13. OK? Je lisais ce matin, j'étais dans 1 Corinthiens. Moi, je marchais dans 1 Corinthiens 7 ce matin. Et puis, Paul nous dit qu'on doit servir la loi, qu'on doit obéir à la loi de Dieu. Lorsqu'on lit Matthieu, lorsqu'on lit puis qu'on voit comment Jésus se comporte à l'égard de la loi puis de l'Ancien Testament, on ne doit pas comprendre que Jésus est venu comme rejeter tout cela. Il y a des choses qui sont accomplies en Jésus-Christ, mais la loi demeure. Ce qui est accompli, on n'a plus besoin de le faire. C'est ce qui va faire que Paul va dire, incirconcis, circoncis, ça revient au même, c'est la circoncision du cœur qui compte. D'accord? Parce que ça, c'est accompli. Mais la loi demeure. Et donc, c'est important de réaliser que Jésus a parfaitement honoré la loi de l'Ancien Testament. D'accord? Il était ce modèle de consécration. Pourquoi est-ce que je prends le temps d'insister sur ça? C'est parce que là, on va regarder des choses ou des passages où Jésus questionne non seulement les pratiques des pharisiens, mais sans même questionner la loi. Parce qu'il va souligner des aspects de la loi qui viennent s'accomplir. D'accord? C'est ça. Il n'est pas venu pour l'abolir, il est venu pour l'accomplir. Puis, des fois, c'est mêlant. Des fois, on regarde dans l'Ancien Testament. Puis, par exemple, je vous donne un exemple. Toutes les relations dans l'Ancien Testament entre les gens, si quelqu'un emprunte quelque chose à quelqu'un, puis là, il l'abîme, puis qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Ben, en gros, Jésus résume ça en disant, « Fais du bien à tes ennemis, bénis ceux qui te maudissent, puis si quelqu'un t'a fait du tort, ben aime-le. » En gros, ça se résume à ça. Ou plus pratico-pratique, ben, si quelqu'un veut prendre ta tunique, donne-y ton manteau aussi. Puis si quelqu'un te demande de porter ta valise, puis il est abusif, bien, porte-le 1 000 de plus. En réalité, il est en train de refléter cette loi-là dans l'Ancien Testament, d'accord? Fait que Jésus va au cœur du principe, de l'idée, puis il dit, ce que je veux, c'est que vous viviez le cœur. Il ne s'en fâche pas dans les détails, d'accord? Mais il s'en va au cœur, puis il nous demande de vivre ça. Donc, il n'est pas venu abolir ces choses-là. Et nous ne devrions pas, si dans l'Ancien Testament, Israël adorait par son style de vie, nous ne devons pas lever le nez sur ces passages-là. On doit lire l'Ancien Testament puis se poser la question, comment est-ce que Jésus veut que je vive ça maintenant? Il y a des choses qui sont accomplies, mais comment est-ce que Jésus veut que je vive ça maintenant, ces passages-là? Il y a une manière de les vivre qui est tout à fait extrême, qui est très, très Jésus. D'accord? Alors, Jésus et la loi de Moïse. L'attitude de Jésus à l'égard de la loi de Moïse est un sujet qui demande beaucoup d'études. D'accord? Parce que des fois, il questionne des choses. Des fois, il semble se placer un petit peu au-dessus. On va juste donner des pistes ce matin. C'est tout ce qu'on va faire. Pour commencer à voir en quoi la nouvelle alliance apparaît. Jésus respecte le temple lui-même et participe au repas de la Pâque. En bon adorateur, le dernier repas, c'était le repas de la Pâque qu'il est en train de prendre. Mais il adresse à plusieurs reprises des reproches aux spécialistes de la loi quant à leur interprétation. Si c'était juste ça, s'il disait, parce que les spécialistes de la loi avaient développé des lois à côté des lois pour se protéger d'enfreindre les lois de Dieu, ils avaient d'autres lois, d'accord? Ils décortiquaient tout ça. Si ce n'était que cela, bien on dirait Jésus s'en est pris au légalisme. D'accord? Le légalisme, c'est celui qui dit, ça c'est la ligne que Dieu a tracée, moi je ne voudrais pas la franchir, alors je vais tracer une nouvelle ligne ici. Entre autres, ça c'est un des aspects du légalisme. Bien, on dirait Jésus est venu attaquer ça parce qu'il dit non, marcher selon la loi de Dieu. Il a attaqué le légalisme. Mais dans plusieurs passages, on voit que Jésus va plus loin que ça. Et il semble comme déplacer le débat carrément à côté, même de ce que la loi de l'Ancien Testament dit. D'accord? On va voir des exemples de ça ensemble. Excusez-moi, j'ai mon texte de prédication, là, c'est pas mal maintenant. J'ai essayé de le résumer dans une phrase. Il dit, juste au-dessus de pureté et impureté, il ne s'oppose pas à la loi, mais nous pouvons voir qu'il n'est pas non plus lié par la loi. Nous dirons généralement que Jésus est venu pour accomplir la loi. Alors, on va prendre un exemple. Vous pouvez aller dans Marc 7, si vous voulez voir l'ensemble du passage, sur la pureté et l'impureté. Et on va voir ensemble que Jésus déplace comme le débat. Ça, c'est toute la discussion que Jésus a avec les pharisiens lorsque ses disciples sont en train de manger sans s'être lavé les mains, sans s'être purifié, tout ça, dans Marc 7, dans Matthieu 15. Jésus n'argumente pas avec la loi dans ce passage-là. Prenons-le ensemble quelques instants, là. Alors, au verset 2, Marc 7, 2. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. La tradition des anciens qui était probablement inspirée par les lois concernant les lévites, les sacrificateurs, qui devaient se purifier avant d'offrir les sacrifices. Pour autant qu'on peut comprendre ces lois-là, les anciens s'étaient dit, bien, si le Lévite doit se purifier avant d'aller pratiquer le sacrifice, tous les Juifs devraient se purifier avant d'aller manger, puis ce serait une manière d'exprimer notre action de grâce envers Dieu. C'est ce que les historiens peuvent comprendre de cette tradition-là qui s'était développée. Or, les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavé les mains. Verset 4, « Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. » Ils ont encore beaucoup d'autres observations traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches, des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? » Alors, à partir de ce moment-là, il y a une déclaration. Si tu manges sans t'être lavé les mains, tu manges avec des mains impures. Maintenant, c'était quoi le sens de l'impureté dans l'Ancien Testament? Le péché, c'était le cœur, c'était l'extérieur, OK. Alors, l'idée d'impureté, c'était impropre au culte à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Lorsqu'on voit cette notion d'impureté, c'est des circonstances. Si j'avais touché un cadavre, admettons, quelqu'un qui était décédé, j'étais impropre à aller dans la présence de Dieu. C'était intimement lié au culte à Dieu. D'accord? Et si eux autres le transposent dans tout le quotidien. Je mange sans m'être lavé les mains. Je mange en étant impur. Mais eux autres ont déplacé aussi la question, là. D'accord? C'est ça le légalisme. C'est ça le légalisme, c'est qu'on invente une nouvelle loi. Verset 6, « Et Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Je vais aller tout de suite à la fin au verset 14 à 16. Dans Marc 7, 14 à 16. Ensuite, je veux juste vous montrer comment Jésus va faire glisser un peu la discussion. Puis là, il va ouvrir la voie à d'autres choses qu'on va voir apparaître dans le Nouveau Testament. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme, rien qui entrant en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. » Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est gros lorsque Jésus dit, « Il n'y a rien hors de l'homme qui puisse le souiller. » Parce que la loi de l'Ancien Testament parlait quand même d'animaux impurs et d'animaux purs. D'accord? OK, bonne question. Je vais vous amener la question de Diane. Pourquoi est-ce que ça changerait avec le Nouveau Testament? Pourquoi est-ce que ces lois-là sur la pureté et l'impureté se modifieraient lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament? Camille? OK, il y avait des lois pour que le peuple juif soit à part des autres peuples. D'accord. Donc, ça serait pour les désigner comme à part. Il y avait beaucoup de choses que les juifs devaient faire dans leur pratique qui, par la symbolique, annonçaient quelque chose qui était à venir. Et honnêtement, c'est probablement la meilleure réponse que je peux vous donner sur ça. Il y avait beaucoup de choses que les juifs pratiquaient qui était symbolique et qui annonçait quelque chose qui était à venir. Et lorsque ces choses-là sont accomplies, lorsque Christ vient, elles n'ont plus lieu d'être. D'accord? Alors, il y avait la dimension où c'était un peuple à part, mais il y avait ce que cela symbolisait. Maintenant, comment est-ce que ce passage-là dans Marc 7 va être développé un petit peu plus loin dans le Nouveau Testament? De la bouche de Dieu lui-même. Excellent. Avec Pierre. Lorsque Dieu donne une vision à Pierre, puis il y a une nappe qui descend, puis il dit « Ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur. » Et là, il va ouvrir la voie. Dans ce cas-là, il n'est pas en train de parler des aliments. Il est en train d'annoncer que l'Évangile est ouverte aux inconvertis, aux païens aussi. Maintenant, comment est-ce que ça va être développé plus loin dans le Nouveau Testament par les apôtres? Oui, bien, c'est autour de ça. C'est autour de ça. Rappelez-vous ce que Paul dit par rapport aux aliments. Vous avez, en gros, Paul répète ce que Paul il dit, il n'y a rien d'impur. Tout est pur. On ne doit pas voir les choses comme pures ou impures. Mais il dit, bon, si par conscience, tu n'es pas à l'aise de le faire, là, dans ce cas-là, c'est péché par motif de conscience. Mais en soi, l'aliment lui-même, la chose elle-même n'est pas impure. D'accord? C'est la nouvelle alliance. Jésus est en train d'ouvrir cette voie-là. Mais vous voyez que Jésus, d'une part, ne s'oppose pas à la loi dans son débat avec les pharisiens. Il attaque le légalisme qu'il y a dans leur approche de la loi. Donc, il vient condamner leur hypocrisie. Mais Jésus fait plus que ça aussi. On voit Jésus qui est en train de nous dire qu'il est maître de la loi, qu'il est maître du sabbat, qu'il vient établir une nouvelle alliance. Il va y avoir une loi nouvelle qui va venir. D'accord? Est-ce que vous le voyez? Jésus déplace le débat ici. Là. Il est en train de changer des choses radicalement. Et ça va se développer à travers l'Église, dans les épîtres, dans les lettres. D'accord? C'est là qu'on va voir comment est-ce qu'ils vont l'appliquer. Mais ceci annonce un jour nouveau. Ça annonce une nouvelle alliance, une loi nouvelle. Qu'il n'y a pas besoin que je dise à Camille, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, puis que je la surveille. Cette loi-là est censée être dans son cœur. Et dans son cœur, si elle cherche à être pure devant Dieu, c'est-à-dire qu'elle mange du porc ou du bœuf, ça devient ou des crevettes ou du sushi, c'est plus une question, d'accord? C'est ce qui se passe dans son cœur. C'est toujours l'esprit de la loi. Mais il y a quelque chose qui a été révolutionné, là. Il y a quelque chose qui a été transformé. On prépare une nouvelle alliance. On prépare une nouvelle loi où les choses ne seront plus les mêmes. Et lorsqu'on le lien, je sais que ça peut vous apparaître loin de l'adoration, là, mais le lien avec l'adoration, c'est quels sont les termes de la nouvelle alliance. Si dans l'Ancien Testament, un adorateur, c'était quelqu'un qui honorait l'alliance, bien dans le Nouveau Testament, s'il y a une nouvelle alliance, un adorateur, c'est celui qui va honorer la nouvelle alliance. Est-ce que Jésus est utopique lorsqu'il dit que je dois bénir mes ennemis? Ou est-ce que c'est les termes de la Nouvelle Alliance? Il met la barre, tout à fait, tout à fait. Et c'est clair, la prophétie de Jérémie est claire, il dit un jour vient où ils auront la loi dans leur cœur. D'accord? Donc le lien avec l'adoration, c'est ça, là. Si Jésus annonce vraiment une Nouvelle Alliance, il faut être attentif pour voir c'est quoi les lois, les nouvelles lois dans la Nouvelle Alliance, et les voir comme la voie pour devenir des adorateurs. Entrer dans cette nouvelle alliance-là, respecter les termes et conditions de la nouvelle alliance. Et là, vous pouvez penser à ce que Jésus fait comme relecture de ce que Moïse avait enseigné par rapport au divorce. Hein? Moïse était venu légiférer sur une pratique qui était faite en Israël, qui donnait un pouvoir presque infini aux époux, un pouvoir définitivement abusif. Puis là, Jésus vient et fait... Il vient rétrécir l'entonnoir énormément. Puis il est en train de dire, avec ma nouvelle alliance, avec l'esprit que vous allez avoir dans votre cœur, vous allez pouvoir vivre selon ces normes-là. D'accord? Elle a été donnée par Dieu. La loi a été donnée par Dieu dans l'Ancien Testament. Pardon? Les 10 commandements seulement. Puis après ça, Moïse va les écrire. Moïse va écrire ce qui lui est révélé. Mais toute cette loi-là est temporaire et c'est en attendant que Christ vienne. D'accord? Je vous lis l'avant-dernier paragraphe à la page 4. « Aux yeux de Dieu, la véritable pureté ne peut s'obtenir par l'observation scrupuleuse des lois du culte. En effet, ces rituels sont incapables de traiter l'impureté intérieure, celle d'un cœur rebelle et corrompu. Les prescriptions de l'alliance que Moïse avait apportées concernant la purification étaient le signe d'un besoin de purification beaucoup plus profond et plus complet. » Alors là, on a une partie de la réponse à la question qui était posée tout à l'heure. Pourquoi il y avait toutes ces notions de pureté et d'impureté? L'enseignement de Jésus soulève donc la question, comment obtenir semblable purification? Le contexte immédiat ne fournit aucune réponse, mais son enseignement sur la signification de sa mort apporte la véritable solution au problème. Alors, c'est juste des indices. Je vous l'ai dit, Jésus parle avec un langage qui est comme encrypté, qui est comme mystérieux. Prochaine page. OK, je vous lis un texte qui est encore un petit peu technique, le paragraphe au haut de la page 5. Prophétisant avant la chute de Jérusalem et l'exil babylonien qui s'ensuivit, Jérémie savait que son peuple avait irrémédiablement rompu l'alliance contractée. J'ai lu un passage tout à l'heure dans Jérémie qui nous expose ça. Contractés par Dieu avec leur père et que par conséquent, Dieu causerait sa ruine. Dieu avait été l'instigateur de l'ancienne alliance. Lui seul pouvait la rétablir dans sa grâce souveraine. Le moment viendrait où il réunirait son peuple, il pardonnerait leurs fautes et ne tiendrait plus compte de leurs péchés. Il placerait sa loi au plus profond d'eux-mêmes et leur permettrait à tous, des plus petits jusqu'aux plus grands, de le connaître en leur donnant le désir et le pouvoir de faire sa volonté et d'être son peuple. Le langage de Jérémie met l'accent sur la nouveauté de cette alliance, malgré sa continuité évidente avec le passé. Dieu seul pouvait créer les conditions nécessaires au rétablissement de sa relation avec un peuple aussi rebelle. Et c'est ça que Jésus est en train d'annoncer tranquillement. Les jours sont là, les jours sont arrivés où une nouvelle alliance va être instaurée et elle va être dramatiquement instaurée par sa mort, par son sacrifice. Dieu avait racheté son peuple d'Israël, Christ vient racheter un peuple nouveau, d'accord, par son propre sacrifice. Regardons par rapport au sabbat, je vais passer vite sur ça, mais c'est juste pour voir ensemble une autre situation où Jésus comme, semble se placer, pas contre la loi, mais au-dessus, en tout cas, il n'est pas lié par la loi. Moi, je dirais au-dessus, là. Dans Matthieu 12, 6 à 8, dans les débats que Jésus aura avec ses adversaires concernant le sabbat, nous voyons à nouveau que Jésus communique un message qui va au-delà de la critique du légalisme de ceux-ci. Jésus nous amène sur la question de son identité et de sa personne. On l'a vu un petit peu en relation avec le temple, ce passage-là. Le passage dans Matthieu 12, 6 à 8 dit, « Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde des noms au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Jésus enseigne clairement qu'il est au-dessus de la loi parce qu'il vient donner une nouvelle loi. Il ne s'oppose pas à la loi, il ne l'abolit pas, il ne la contredit pas, il vient l'accomplir et il vient donner des nouveaux standards. Je vous donne une piste, un exemple. Je l'avais mentionné lorsqu'on a prêché sur le sermon sur la montagne. Quand on relit comme il faut le sermon sur la montagne, puis on voit Jésus qui... Quand on saisit les comparaisons que Matthieu fait entre Moïse et Jésus, on comprend que lorsqu'on arrive au sermon sur la montagne, quand Jésus monte sur la montagne et donne le sermon sur la montagne, on assiste à une deuxième fois au moment où Dieu donne sa loi à son peuple. D'accord? Jésus sur la montagne qui donne le sermon sur la montagne, c'est Moïse qui est allé sur la montagne pour recevoir la loi pour Dieu. Et lorsque tu saisis cela, puis tu retournes lire le sermon sur la montagne, tu ne lis pas ces passages-là comme des textes inspirants. Tu les lis comme la nouvelle loi, les nouveaux termes de l'Alliance. Et c'est certain que bien les lire, ça t'amène à tomber à genoux et dire « Mais Seigneur, je n'arriverai jamais à faire ça. » Ça n'a absolument aucun bon sens. C'est pas vrai. C'est faux. Je n'arriverai parfois pas à honorer ça. Mais je peux le faire. Son esprit m'a été donné. D'accord? Et là, on a une décision à prendre. Quand on comprend ça, on a une décision à prendre. Est-ce que je décide de croire Dieu puis de devenir un Jesus freak? Ou est-ce que je décroche? Puis je me dis, ben là, c'est Jésus qui parle. Tu sais, quand Jésus parle, là, tu baisses le volume un petit peu parce qu'il est... Ouh! Il est flyé. Tu décroches un petit peu parce que si tu essaies de suivre Jésus, c'est comme... Oh! Mais si tu comprends que Jésus est vraiment le nouveau Moïse, qui est monté sur la montagne, qui a donné sa loi, comme Moïse avait donné la loi à Israël, tu le prends au sérieux. Puis là, tu dis, Seigneur, c'est sûr que je vais manquer souvent. C'est certain, je ne serai pas toujours un adorateur digne de toi. Dieu merci, il y a la grâce en Jésus-Christ. Mais c'est ta nouvelle loi. C'est celle que je dois vivre. Et là, tu continues à lire les chapitres qui suivent lorsqu'il dit de s'investir dans le royaume, de ne pas se bâtir un royaume sur la terre, de ne pas s'attacher aux richesses de ce monde, mais de vivre pour lui. Puis tu lis tous ces passages-là, puis tu commences à le prendre comme ton objectif, pas comme une utopie. Reste avec moi. Stay with me. Je vais me transformer en mesmer. Je vais garder votre attention. Oui. Ça ne dit pas, Diane demande, où est-ce que c'est écrit que lorsqu'on devient enfant de Dieu, on ne pêche plus? Ça ne dit pas ça, ça dit qu'on ne vit plus dans le péché. C'est ça le sens de ce que l'apôtre Jean dit dans sa lettre. D'accord? Alors, on continue, Paul le dit, on continue à broncher, on continue à pécher, on reste pécheur jusqu'à la fin. Ça, c'est certain. Mais c'est impossible de le vivre parfaitement. OK, c'est la nuance que je ferais. Je ne dirais pas que c'est impossible à vivre. Si c'est impossible à vivre, Jésus... C'est possible si chaque fois, c'est possible de vivre ça, si chaque fois que je manque, je vais à la croix, je suis pardonné pour mon péché et Dieu me considère comme étant purifié. Donc, je suis parfait, je suis droit devant Dieu. J'ai péché encore, puis le pardon est là entier. Alors, ce que Jésus est en train de nous dire, jamais Jésus nous dit... Là, les boys, ce qui va se passer, là, c'est qu'avant que je vienne vous chercher, là, vous allez être pareil comme moi et vous allez être sans péché tellement que, écoute, en fin de compte, vous pourriez peut-être même vous-même vous offrir en sacrifice pour le salut des hommes. Vous allez être sans péché. Jésus, tu ne vois jamais cette espèce d'idée-là. On va rester pécheurs jusqu'à la fin. La décision qu'on a à prendre, on doit décider si c'est ça que Jésus nous demande de vivre, avec la grâce de se repentir chaque fois qu'on manque à ça, ou est-ce qu'à un certain moment donné, on décroche, puis on dit, non, c'est trop. Et au moment où tu décroches, c'est un problème avec Dieu que tu as. 80% des gens avec qui je vais faire du counseling, les gens qui viennent me demander des conseils dans des situations difficiles, 80% des gens, je les écoute parler après 15 minutes, je suis capable de dire, oups, il a décroché, il ne croit plus en Dieu. Il ne croit plus la parole de Dieu. Jésus, c'est un grand utopiste. Je vous le dis, je ne peux pas le dire tout de suite. Il va prendre ses affaires, il va s'en aller. Mais c'est là que je m'en vais, là. Vous allez le voir la prochaine fois, là, vous le savez, je vous le dis. Quand vous viendrez me voir, je vais vous écouter, mais c'est là qu'on s'en va. Parce que je dois vous ramener à la parole de Dieu. D'accord? Alors, je dois prendre une décision. Est-ce que c'est ça que Jésus veut faire en moi? Et chaque fois que je vais manquer, je vais pouvoir me repentir et revenir? Ou est-ce que je vais décrocher parce que, mais Yannick, come on, c'est Jésus qui parle. Oui, Suzy. Absolument. Alors, lorsqu'on se repent, oui, lorsqu'on se repent, on donne la possibilité à l'Esprit de Dieu de travailler en nous. Mais lorsqu'on décroche, qu'est-ce qui se passe? On attriste l'Esprit de Dieu. D'accord? Quand je regarde les standards de Jésus, puis je dis, hey, come on. Non, 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 non. Je te rappelle quand j'ai besoin de toi, je vais régler celle-là de ma manière. D'accord? Mais lui, il dit, c'est très bien. Quand tu voudras me rappeler, passe par la croix. En attendant, je ne suis plus là. Je suis dans ton cœur, mais je suis silencieux dans mon coin. Puis tu vas commencer à récolter les fruits de ça. Ça va se manifester ailleurs. Oui. Robert. Amen. Absolument. Par nos propres forces, on ne peut pas y arriver. C'est seulement par la foi qu'on va le faire. Ce que j'essaie de souligner, c'est la décision consciente que je dois prendre de réaliser que Jésus est venu pour établir une nouvelle alliance. Jésus, ce n'était pas un utopiste, ce n'était pas un flyer, c'était un être puissant qui est le Fils de Dieu, qui accomplit quelque chose de majestueux à la croix. Ce n'est pas une utopie, cette affaire-là. Si vous en doutez, lisez l'histoire de l'Église. Regardez la vie de ceux qui ont établi l'Église ici. D'accord? Je peux vous dire que c'était des pécheurs, j'en ai connu quelques-uns. J'ai travaillé même avec eux. Je sais que c'est des pécheurs. Mais regardez les choses merveilleuses qu'ils ont accomplies. Ce n'était pas une utopie. Alors, regardez l'histoire de l'Église. Lisez des biographies. Vous en allez en voir des Jesus freaks. Il y en a plein. D'accord? Qui vivaient ça comme ce que je dois faire, ce que je dois atteindre. Il y en a encore plein aujourd'hui. Il y en a plein dans l'Église. Mais on a tous un moment où on doit prendre une décision. Est-ce que Jésus, c'est un utopiste? Ou est-ce que c'est ça les termes de la Nouvelle Alliance? Oui, Sylvain? Oui. 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 Puis je pense le pas de foi que nous, on a à faire. D'accord, réaliser. Excuse-moi, je vais juste répéter. Lorsqu'on réalise que celui qui a parlé sur la montagne au moment de la transfiguration, c'est le même qui a parlé sur la montagne à Moïse, là, on réalise qu'il y a une puissance qui est là. Le pas qu'on doit faire, alors s'il y a une place où on attriste l'Esprit-Saint, le pas qu'on doit faire, c'est de réaliser que c'est le même maintenant qui habite en nous. D'accord? Autrement, la prophétie de Jérémie est fausse. Ou bien Jésus ne l'a pas accompli, la prophétie de Jérémie. Mais la prophétie de Jérémie, c'est que la loi serait dans notre cœur. Est-ce qu'elle est fausse? Est-ce que Jésus est décevant? Est-ce que Jésus n'aurait pas accompli ça? Je dois vivre, c'est pas de la théorie, là. C'est pas purement théorique ce que je vous dis là. C'est ce que tu vis dans ton culte personnel le matin lorsque tu penses à ton mari. Puis que tu dis, non, faire du bien à mes ennemis, pas aujourd'hui. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je parlais des fatigants. Ce n'est pas de la théorie, c'est vrai, là. C'est vrai, là. C'est lorsque je regarde mon compte en banque, puis je dis, ça ne balancera pas, puis j'ai fait tous les bons choix, puis que là, je commence à m'inquiéter. Là, je commence à m'inquiéter, puis là, je commence à m'inquiéter. Mais je ne suis pas censé m'inquiéter selon les termes de la nouvelle loi, la nouvelle alliance. Je suis censé vivre la confiance. C'est pas théorique, là, cette affaire-là. Là. Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en moi ou Jésus, c'est un grand utopiste? D'accord? Alors, vous voyez, c'est très, très concret, là. Et c'est ces combats-là qu'on vit. Lorsque vous venez voir quelqu'un qui va vous conseiller, qui va vous ramener là, ce qu'il essaie de faire, c'est juste de détacher la question que vous vivez pour voir c'est quoi là, qui est derrière, c'est quoi les vrais enjeux. Le véritable enjeu, c'est ta confiance en Jésus-Christ et ta foi dans ce qu'il a promis et ton acceptation des termes de la nouvelle alliance. C'est ça qui est en jeu, là. D'accord? Oui. Alors, on doit faire le pas de foi de croire que si tout pouvoir lui a été donné puis qu'il est avec nous, c'est que tout pouvoir sont avec nous. Là. C'est ça. Et c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Utopiste, c'est quelqu'un qui présente des idéaux qui ne sont pas vraiment réalistes. Jésus met la barre comme à quelque chose que c'est cute. On va aller dans cette direction-là, mais on ne l'atteindra jamais. D'accord? Et ça vient dans notre langage beaucoup trop facilement. Beaucoup trop facilement. En tout cas, ce n'était pas dans le langage de Jésus. D'accord? Les évangiles et la mort de Jésus, au bas de la page 5. On est toujours en train d'essayer de voir que Jésus annonce une nouvelle alliance. Chacun des quatre évangiles enseigne sur le sens de la vie et de la mort de Jésus-Christ. Par exemple, Matthieu, dès le début de son évangile, annonce qu'il est envoyé pour sauver son peuple de ses péchés. Ça va très concrètement avec Jérémie 31, par exemple, qu'on a lu tout à l'heure. Mais ça devient vraiment clair, l'idée d'une nouvelle alliance seulement au dernier repas. C'est pour ça que je dis, c'est mystérieux la manière que Jésus enseigne. Le prochain paragraphe est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Certains d'entre vous avaient déjà réalisé ça, d'autres non. Dans l'Ancien Testament, la coupe de vin servait couramment d'image de la souffrance en tant qu'expression du jugement divin contre le péché. Je vous ai mis les références, je ne prends pas le temps d'aller les voir ce matin. Mais cette idée de boire la coupe de la colère de Dieu, d'accord? Quand Dieu intervient, David a dû boire la coupe de la colère de Dieu. Quand Dieu lui a dit, « OK, je te donne trois options, mon ami. » Vous vous rappelez? Alors, il a dû boire la coupe du jugement divin, littéralement. Et donc, ça, c'est une image qui revient à plusieurs reprises. L'application de cette image à Jésus dans ce texte et dans la prière de Gethsémané suggère que Jésus interprétait sa mort de cette manière. Lorsque Jésus fait la prière et il dit « Éloigne de moi cette coupe », c'est quelle coupe? C'était pas le festin des noces de l'agneau, on s'entend? On n'est pas rendu là, là. Éloigne de moi cette coupe, le jugement divin qui va s'abattre sur moi si je deviens péché pour le salut des hommes. D'accord? Oui. Maintenant, il s'en va chercher un langage qui est dans l'Ancien Testament, qui nous parle d'un jugement, qui nous parle des conditions pour établir une nouvelle alliance. D'accord? La coupe du jugement de Dieu va s'abattre sur lui et dans ses tripes, il voudrait que cette coupe-là soit éloignée de lui. Ça va devenir des conditions nécessaires pour établir une nouvelle alliance. On l'a dit dans l'Ancien Testament, c'était la révélation, la rédemption, c'est le peuple racheté. Après le Dieu qui se révèle, excusez-moi, c'est le Dieu qui rachète un nouveau peuple. D'accord? Bon, mais on s'en va vers les termes d'une nouvelle alliance. Il va falloir qu'il rachète. Il va falloir qu'il se rachète un nouveau peuple. Jésus voyait son propre sacrifice comme un service en vue du paiement d'une rançon. Dans Matthieu 20, 26 à 28, « Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Alors, là, je vais ramener 4-5 fils ensemble en même temps, d'accord? Dans ce passage-là, nous voyons l'adoration de Jésus, qui voyait son ministère, sa mort, sa résurrection comme son service envers Dieu. On voit Jésus l'adorateur qui sert son Dieu, qui sert les hommes, donc il sert Dieu et il sert son prochain jusqu'à donner sa vie en rançon. OK, alors ce que je vous disais, Jésus c'est notre modèle comme adorateur. On voit Jésus l'adorateur ici, qui est Jésus le serviteur qui répond aux deux commandements, qui aime Dieu et qui aime son prochain comme lui-même. D'accord, d'une part. D'autre part, il était conscient qu'il était en train d'accomplir quelque chose de nouveau parce qu'il se donne comme exemple à nous pour que nous soyons des serviteurs, mais il dit, attendez un peu, vous ne pourrez jamais être serviteur comme moi, je vais être serviteur. Je vais être serviteur jusqu'à donner ma vie en rançon lorsque je vais boire la coupe de la colère de Dieu. Okay? C'est le terme de l'alliance de l'Ancien Testament qui est en train d'apparaître. Un peuple qui va être racheté. Christ avait conscience qu'il venait établir une nouvelle alliance. Est-ce que ça va? Ou vous êtes bien perdu là? Oui? Pas pire. Il y a eu 2-3 oui. Les autres, vous pouvez dormir. Ce service devait le conduire au haut de la page 6 jusqu'à la mort, en parfaite obéissance à la volonté du Père, afin que soit payé le prix du péché. Le langage de l'adoration n'est pas explicitement employé dans ce contexte. Il y a plein de fautes là-dedans. Mais la notion de sacrifice expiatoire n'est pas loin. Désolé, c'est abominable. J'ai écrit ça à 9h15 hier soir. En effet, comme l'a montré notre chapitre 2, le service de Dieu et le service de son peuple sont étroitement associés dans l'Ancien Testament. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va juste garder, parce que je ne voudrais pas bousiller là, le bas de page. On va garder ça, lisez-le, puis je vais le terminer la semaine prochaine. Juste le dernier repas, il faut qu'on prenne le temps d'aller voir quelques éléments dedans. Et si je le fais en une minute ou deux, là, je vais manquer là-dessus. Mais ce qu'on est en train de voir ensemble, c'est que Jésus est venu pour établir une nouvelle alliance. Non seulement Jésus est venu accomplir tout ce que le temple accomplissait comme mandat, mais Jésus est venu établir une nouvelle alliance. Si Je ramène à notre sujet d'adoration. Si dans l'Ancien Testament, être un adorateur, c'est connaître le Dieu qui se révèle, c'est être racheté par le Dieu qui rachète, c'est entrer dans une alliance qui va commander tout un style de vie, d'accord? Dans une alliance avec Dieu, bien dans le Nouveau Testament, on a le Dieu qui se révèle, le Dieu qui vient nous racheter et qui nous invite à entrer dans une nouvelle alliance. Et devenir des adorateurs, ça va pas mal être ça. Entrer dans cette alliance-là, honorer cette alliance. D'accord? Ça, c'est le lien avec tout notre grand sujet de l'adoration. On voit une continuité avec l'Ancien Testament. On va dire un mot de prière ensemble. Seigneur Jésus, ces choses sont difficiles à comprendre. Mais en même temps, lorsque tu commences à ouvrir nos yeux sur la beauté de ce que tu as accompli, on y trouve, Seigneur, une inspiration pour vivre autrement. Comprendre ta parole et comprendre ta vision de ton sacrifice, de l'alliance que tu viens traiter avec les hommes, Seigneur, c'est saisir que tu n'étais pas un rêveur, mais que tu étais sérieux dans tous les standards que tu nous présentes, Seigneur. Seigneur Jésus, enseigne-nous à être des adorateurs et à vivre un style de vie qui est une adoration chaque jour de la semaine, en honorant, Seigneur, cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes entrés. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen.